À la une, en juin dernier, la guerre avait duré 12 jours et quelques 200 sites militaires et nucléaires iraniens avaient été touchés. Cette fois-ci, Israël évoque une opération militaire sans précédent, menée conjointement avec les États-Unis. Et désormais, l'ambition de faire chuter le régime de Téhéran est clairement affichée. Le guide suprême Ali Khamenei est ciblé par les bombardements, mais l'effondrement de la République islamique est loin d'être acquise. Tout en se disant prêt à une désescalade, l'Iran continue de riposter. En Israël, les sirènes ont retenti ce matin dans tout le pays. Riposte également dans le Golfe. Attaque confirmée sur des bases américaines au Bahreïn, au Qatar, aux Émirats Arabes Unis. Frappe en Irak et au Koweït également. L'Arabie Saoudite est aussi en alerte. Les frappes se sont enchaînées en Iran depuis ce matin. Attaques conjointes lancées par les États-Unis et Israël. Des centaines de sites militaires ont été visés. L'armée israélienne affirme avoir achevé une vaste opération contre les systèmes de défense anti-aérienne du régime. Elle vise désormais des lanceurs de missiles. Et c'est un tournant historique dans la géopolitique du Moyen-Orient. Pour la première fois, Israël et les États-Unis ne se contentent plus de frappes chirurgicales. Ils affichent ouvertement leur volonté de faire tomber le régime iranien. Écoutez le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou.
Mes frères et sœurs, citoyens d'Israël, il y a peu, Israël et les États-Unis ont lancé une opération visant à éliminer la menace existentielle que représente le régime terroriste iranien. Je remercie notre grand ami, le président Donald Trump, pour son leadership historique. Depuis 47 ans, le régime des ayatollahs crie « mort à Israël, mort à l'Amérique ». Il a versé notre sang, assassiné de nombreux Américains et massacré son propre peuple. Il est impensable que ce régime terroriste meurtrier se dote d'armes nucléaires qui lui permettraient de menacer l'humanité tout entière. Notre action commune créera les conditions permettant au courageux peuple iranien de prendre son destin en main. Le moment est venu pour toutes les composantes du peuple iranien, les Perses, les Kurdes, les Azéris, les Baloutches et les Awazis, de se libérer du joug de la tyrannie et d'instaurer un Iran libre et épris de paix.
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, selon l'agence de presse iranienne Tasmin, 7 missiles se sont abattus aux abords du palais présidentiel et de la résidence du guide suprême. L'Iran assure que presque tous les responsables sont sains et saufs, dont l'ayatollah Ali Khamenei. En revanche, la télévision d'État rapporte la mort d'au moins 85 personnes tuées lors d'une frappe contre une école de filles dans le sud de l'Iran. Par SMS, les autorités appellent désormais les habitants de Téhéran a quitté la capitale et toutes les universités du pays sont désormais fermées. Au Liban, le Hezbollah pro-iranien appelle à s'opposer à l'agression contre Téhéran. Donald Trump avait aussi visé directement le régime de Téhéran dans son message vidéo diffusé tôt ce matin sur son réseau social. Casquette blanche vissée sur la tête, siglée USA, le président américain s'est adressé au peuple iranien encore sonné par la très violente répression des manifestations anti-régime en janvier. Le dirigeant républicain les incite donc à s'emparer du pouvoir. L'heure de votre liberté est à portée de main, mais un effondrement du régime est une perspective bien incertaine, tant ses dirigeants sont prêts au pire pour assurer leur survie, selon la sociologue franco-iranienne Azedekian. On l'écoute.
Le régime va essayer d'empêcher son opposition de se former, de se constitué en une force importante. Donc, il faut s'attendre à ce qu'il frappe davantage des forces vives de la société qui protestent encore aujourd'hui, à commencer par des étudiants. C'est vraiment à craindre. Et aussi à ceux et celles qui oseraient redescendre dans la rue, je pense qu'ils vont être de nouveau massacrés par ce régime. Donc c'est un régime qui devient un régime jusqu'au boutiste, puisque ils voient que leur existence est aujourd'hui menacée par des frappes israéliennes et américaines, ce qui n'était pas le cas en juin 2025.
Azadeh Kian, que vous pourrez retrouver dans Géopolitique de Marie-France Chatin à 17h10, temps universel. Bertrand Badi et Thierry Coville seront également présents. Donald Trump appelle les gardiens de la révolution islamique, armée idéologique du régime, et les forces armées en général à déposer les armes pour bénéficier d'une immunité, sans quoi une mort certaine les attend, prévient-il. La riposte du régime iranien est en cours. En Israël, dès ce matin, l'État hébreu a recensé 2 blessés. Les pays du Golfe sont aussi ciblés. Les bases américaines sont visées au Bahreïn, au Koweït, en Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis, ainsi qu'au Qatar. Mais des zones civiles ont été touchées également, notamment à Dubaï. Beaucoup de réactions internationales, évidemment, depuis ce matin. L'ONU déplore les frappes et exhorte toutes les parties à revenir aux négociations. L'Union européenne juge la situation périlleuse et appelle à la protection des civils en France. Beaucoup de réactions également. Aurélien de Vernois.
Et la première est celle d'Emmanuel Macron qui s'inquiète de possibles graves conséquences pour la paix et la sécurité internationale. Le chef de l'État estime que l'escalade en cours est dangereuse pour tous et qu'elle doit cesser. Emmanuel Macron, qui s'est entretenu avec notamment les dirigeants du Moyen-Orient, mais aussi de l'Allemagne et du Royaume-Uni, avec lequel un communiqué conjoint vient d'être publié. La France assure être prête à déployer les moyens nécessaires à la protection de ses partenaires. Le président français demande par ailleurs une réunion urgente du Conseil de sécurité des Nations Unies et appelle le régime iranien à s'engager dans une négociation de bonne foi. Une issue diplomatique à laquelle ne croit plus Jean-Luc Mélenchon, pour qui l'offensive menée par les États-Unis à Israël n'a pour objectif que le pétrole et les rapports de force au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique, langage nettement plus belliqueux du côté de l'eurodéputée insoumise Rima Hassan, pour qui l'Iran a le droit de se défendre et dénonce un agenda impérialiste dévastateur. Autre réaction, celle du patron du Parti communiste, Fabien Roussel, adresse son soutien aux Iraniens pris en étau, selon lui, entre la dictature des mollahs, les provocations de Netanyahou et la politique guerrière de Donald Trump.
Emmanuel Macron va réunir plusieurs membres du gouvernement à l'Élysée pour un conseil de défense. Une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU est aussi prévue ce soir. La Russie dénonce de son côté l'aventure dangereuse des États-Unis et d'Israël visant à détruire le gouvernement iranien qui refuse, dit Moscou, de se soumettre à leur diktat. Nous continuerons bien évidemment de suivre la situation au Proche et au Moyen-Orient ces prochaines heures sur l'antenne et sur le site de RFI. Ne manquez pas la prochaine édition spéciale de la rédaction. C'est à 18h, temps universel. Dans le reste de l'actualité, les combats entre l'Afghanistan et le Pakistan se poursuivent le long de la frontière. Troisième jour d'une guerre ouverte lancée par Islamabad, qui accuse depuis longtemps son voisin d'accueillir sur son sol les talibans pakistanais. En Corée du Sud, le gouvernement autorise Google à accéder à ses données cartographiques pour alimenter Google Maps. Jusqu'ici, l'application du géant américain ne pouvait pas proposer de position précise, limitant son usage pour les touristes étrangers. Cette décision de Séoul marque la fin d'un monopole coréen de 20 ans sur les applications GPS dans le pays. La correspondance de Celio Fioretti.
20 ans de discussions tendues entre le géant de la tech américain et le gouvernement sud-coréen qui ne souhaitait pas autoriser l'accès à ses données cartographiques à l'échelle 1/50 millième, et ce pour deux raisons. Tout d'abord, une question de souveraineté numérique et de sécurité. La Corée du Sud, pays officiellement en avec son voisin, a longtemps hésité à permettre à un pays tiers de cartographier son territoire et les zones d'intérêt stratégique qu'il contient, comme les bases militaires, centrales nucléaires ou sites industriels sensibles. Deuxième point, une politique protectionniste des acteurs locaux du numérique, Kakao et Naver, qui, ayant la confiance du gouvernement, étaient jusqu'à aujourd'hui les seuls à pouvoir utiliser ces données cartographiques de haute précision. Mais l'impact économique sur le tourisme, en rendant la vie difficile aux nombreux touristes, a convaincu le gouvernement de s'accorder avec Google, à condition que ce dernier floute les zones sensibles, héberge les données sur des serveurs en Corée et effectue les modifications demandées par le gouvernement sud-coréen. C'est le Fioretti, Séoul, RFI.
Et puis Greenpeace menacée de faillite. La célèbre organisation de protection de l'environnement a été condamnée par un tribunal américain à verser 345 millions de dollars de dommages et intérêts à l'exploitant d'un oléoduc auquel elle s'était opposée. Voilà, c'est la fin de ce journal. Restez à l'écoute de RFI.